bon début de semaine à tous, province du Haut-Katanga. Incursion dans la nuit de vendredi à samedi des Maïmaï Bakata-Katanga au centre-ville de Lubumbashi. Cette dernière montrée des insurgés dans la ville inquiète la population qui se demande comment ces hommes armés peuvent parcourir la ville sans être appréhendés par les forces de l'ordre. Cette situation est intervenue quelques heures seulement après le soulèvement des prisonniers de la Kasapa à Lubumbashi où ils ont incendié plusieurs bâtiments. Comment expliquer cette énième incursion de Bakata Katanga dans la ville de Lubumbashi? Quelle solution pour mettre fin au phénomène Bakata Katanga? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 28 septembre 2020. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour les débats Fulbert Kunda Milundu. Il est ministre en charge de l'intérieur et sécurité du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Monsieur Kunda, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Maître Timothée Mbouya, directeur de l'ONG Justicias Bell, une organisation de défense des droits de l'homme basée à Lubumbashi. On me signale qu'il n'est pas encore en ligne. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Et le professeur Gabin Badi Kabuya, directeur de l'école de criminologie de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Professeur Badi Kabuya, bonsoir. Vous êtes nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Emerine Zanzou. Cette incursion dans la ville de Lubumbashi démontre une fois de plus la faiblesse de notre gouvernement sur le plan sécuritaire. Désiré Sakodi Paouni, depuis Lubumbashi dans le Haut-Katanga, je pense que cette nouvelle incursion démontre l'incapacité des services de renseignement et de sécurité qui ne fonctionnent pas correctement. Comment expliquer que ce groupe peut traverser toute la ville et arriver à décapiter les éléments de la police? C'est vraiment incompréhensible. Je propose le renforcement des services de renseignement et de sécurité en hommes et en moyens conséquents. Merci de nous suivre à Lubumbashi sous la 95.8. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La situation à Lubumbashi est sous contrôle, rassure les autorités provinciales après cette nouvelle incursion dans la nuit de vendredi à samedi des Maïmaï Bakata Katanga au centre-ville de Lubumbashi. Cette énième entrée des insurgés dans la ville inquiète la population qui se demande, je l'ai dit dans mon introduction, comment ces hommes armés peuvent parcourir la ville sans être appréhendés par les forces de l'ordre, signalant que 16 miliciens et 3 forces de l'ordre ont été tués au cours de cette incursion. Bilan livré par le ministre provincial de l'Intérieur Fulbert Kunda Milundu. Jean Gandou depuis Lubumbashi revient sur cette incursion dans ce reportage que je vous propose de suivre.
Nos sources renseignent que c'était aux environs de minuit que ces insurgés se sont signalés. Ils provenaient de plusieurs coins de la ville avec en point de chute la grande place de la poste au centre-ville de Lubumbashi. Munis de fusils et d'armes blanches, ils avaient des bandeaux de couleur rouge pour les uns et de couleur blanche pour les autres autour des têtes et arboraient leurs drapeaux. Ils portaient sur eux des amulettes et des petites bouteilles contenant des gris-gris. Les forces de l'ordre sont arrivées sur place pour les déloger. Il y a eu des échanges de tirs et plusieurs assaillants sont tombés, indiquent nos sources. Après leur fuite, il y en a qui se sont reconstitués. Certains sont allés investir la station provinciale de la RTNC et d'après un journaliste qui était sur place, ils les entendaient chercher où serrer la radio. Ainsi, ils ont mis la main sur un policier de garde à qui ils ont ravi l'arme et lui ont amputé le bras avant de s'enfuir à l'arrivée du renfort. Ils se sont dispersés à travers la ville. Certains, ne sachant où aller, ont été arrêtés par la population avant de les confier entre les mains de l'armée. Jusqu'à présent, difficile d'avancer un quelconque bilan. Toutefois, certaines sources indépendantes parlent de plusieurs morts dans les camps de Maïmaï Bakata Katanga. D'autres sont arrêtés. On nous signale également des pertes en vie humaine dans les camps des forces de l'ordre où on compte des blessés dont un officier de la police. Notons que cette situation intervient quelques heures seulement après le soulèvement des prisonniers de la Kasapa à Lubumbashi. Ils ont incendié plusieurs bâtiments. La police et l'armée sont arrivés sur place pour maîtriser la situation. Il y a eu plusieurs blessés graves. Là aussi, difficile de savoir s'il y a eu des morts, car jusqu'à présent, aucune source officielle ne s'est prononcée à ce sujet. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Capi.
Merci Jean Gandou pour ce reportage. Fulbert Kunda Milundu, je rappelle que vous êtes ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Monsieur le ministre, la situation à Lubumbashi est sous contrôle, rassure les autorités. Après cette nouvelle incursion dans la nuit de vendredi à samedi, il faut rappeler que c'est la deuxième incursion des Bakata Katanga en 6 mois. Comment vous expliquez cette énième incursion, monsieur le ministre provincial en charge de l'Intérieur et Sécurité?
Oui, madame. Ce que vous devez savoir, ce que l'opinion doit savoir, c'est que Gédéon a séjourné pendant quelques années ici au centre-ville, dans un des plus beaux quartiers de la ville. Et c'est de là qu'il a pris la route de la nature. Il est perdu dans la nature. Et après son passage pendant son séjour dans la ville de Lubumbashi, ses adeptes vivaient dans la ville de Lubumbashi. Il en a recruté beaucoup dans la zone verte ici de la ville de Lubumbashi et dans nos quartiers. Donc, voilà.
C'est comme ça que vous expliquez cette incursion, monsieur le ministre?
Oui, j'essaie de l'expliquer de cette manière-là. C'est-à-dire que Gédéon, ce n'était pas un extraterrestre qui venait de loin. Il a vécu parmi nous pendant longtemps avant d'aller là où il serait pour le moment.
Et dans sa fuite,
et quand il est parti, tout le monde n'était pas parti, donc il y en a qui sont restés ici.
Et ceux qui sont restés circulent librement dans la ville de Lubumbashi?
Bien sûr, à partir du moment où on avait accepté que Gédéon puisse séjourner dans la ville, ses adeptes ont vécu dans la ceinture verte de Lubumbashi et dans nos cités.
Ces adeptes, ils font ces incursions pour quelles raisons? Quelles sont leurs revendications?
De par la nomenclature même du mouvement de Gédéon, c'est-à-dire le mouvement révolutionnaire indépendantiste et révolutionnaire africain, c'est-à-dire MIRA, c'est un mouvement qui recherche l'indépendance du Katanga. D'ailleurs, ils l'ont marqué dans les chansons qu'ils ont scandées pendant qu'ils étaient en train de défiler dans nos chaussées ici. Donc ce sont des gens qui courent après l'indépendance du Katanga parce que ils estiment que peut-être le pays serait mieux géré s'il devenait indépendant.
Qu'est-ce que le gouvernement provincial fait pour maîtriser ces gens? Le 30 mars, il y avait incursion des Bakata Katanga, plusieurs avaient été maîtrisés. Qu'est-ce qu'on avait fait de ces gens?
Mais avant de parler du gouvernement provincial, madame, vous devez vous rappeler que le 28 mars dernier, il y a eu le même mouvement dans cette ville et une grande délégation était venue de Kinshasa au nom donc du président de la République. Et cette délégation a séjourné ici pendant près de 15 jours. Celle-ci avait prôné en son temps le dialogue avec les forces Maïmaï de Bakata Katanga pour pouvoir voir, étudier leurs revendications.
Est-ce qu'il y a eu dialogue? On avait prôné le dialogue. Il y a eu dialogue, monsieur le ministre?
Bon, ça je ne peux pas savoir à cette époque-là. Moi, je viens de rejoindre le gouvernement il n'y a pas longtemps. Mais ce que je sais, j'ai lu dans les archives, la commission avait prôné un dialogue avec ces forces-là.
Est-ce que c'est une façon de nous dire que, puisqu'on avait prôné le dialogue, c'est Maïmaï Bakata Katanga qui avait attaqué la ville au mois de mars, avait été relâché et circule librement dans la ville de Lubumbashi?
Ce que vous devez savoir, c'est que depuis la disparition de Gédéon, la menace de Maïmaï était permanente sur la ville. Nous recevions de temps en temps des échos que ces gens-là pouvaient revenir d'une manière ou d'une autre. Parce que c'était ça, ils avaient déjà annoncé ça, donc voilà.
Menace permanente, puisque vous étiez informé, quelles sont les mesures prises par le gouvernement provincial justement pour éviter ces incursions?
Toutes les mesures étaient prises pour pouvoir parer à toute éventualité, mais comme je vous ai dit, ils étaient déjà en fait dans l'objectif, c'est-à-dire ils étaient déjà dans la ville, et par petits groupes, ils se sont reconstitués, ils ont surgi, certaines colonnes qui venaient de la zone verte de Lubumbashi. C'est comme ça qu'ils ont pu entrer peut-être en échappant à notre vigilance.
En échappant aussi à la vigilance des forces de sécurité, pourtant ils sont très visibles dans la ville de Lubumbashi, les forces de sécurité.
Mais quand quand je vous parle d'une menace permanente, c'est plus que les forces de sécurité suivaient de très près, ça c'est.
Oui,
quand
si.
Je parle donc de cette menace permanente, c'est que nous avions des échos d'une manière permanente par les services que ces gens-là pouvaient se remuer n'importe quand. Peut-être que nous avons été surpris, c'est parce qu'ils ont utilisé une méthode, évidemment, par des petits regroupements, ils se sont infiltrés, et brusquement ils ont constitué des groupes, ils ont commencé à cheminer vers le centre-ville.
La population de Lubumbashi a vu ces Maïmaï en colonne, en train de se diriger vers la poste, mais n'ont pas été appréhendés par les forces de l'ordre. Ils sont entrés au vu et au su de tout le monde. Pourquoi attendre que ces gens arrivent jusqu'à la poste pour les appréhender?
Les forces républicaines sont des forces disciplinées. Elles ont détecté dans les rangs de ces Maïmaï des femmes et des enfants. Et tout de suite, ils se sont dit, attention, nous ne devons pas faire n'importe quoi. Ils ont encadré ces compatriotes dans leur mouvement vers le centre-ville. Jusqu'au moment où ils ont constaté que ces gens avaient quelques armes à feu, mais ils avaient aussi des armes blanches, comme nous l'avions annoncé. Mais à un moment donné, pour des raisons que nous ignorons encore, ils ont essayé d'attaquer nos forces avec des armes à feu. C'est cela qui a aggravé la situation.
Monsieur le ministre, cette situation est intervenue quelques heures seulement après le soulèvement des prisonniers de la CASAPA, Lubumbashi. Peut-on établir un lien entre ces deux situations, l'incursion des Bakata Katanga et le soulèvement des prisonniers à la prison de la CASAPA à Lubumbashi?
Les enquêtes sont en cours, je ne peux pas vous en dire plus. Nous sommes en train de chercher justement à établir le lien entre les mouvements, si vous voulez, qui les remous, qui ont caractérisé la prison de CASAPA, la même journée ou la nuit, les insurgés Bakata Katanga sont apparus dans la ville. Nous sommes en train de chercher ces liens-là, mais jusque-là, nous n'avons pas encore tout à fait un tableau clair.
On vous garde encore dans cette émission, M. Fulbert Kunda, ministre en charge de l'intérieur et sécurité du gouvernement provincial du Haut-Katanga, professeur Gabin Badi Kabuya, directeur de l'école de criminologie de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Professeur, quelle lecture vous faites de cette situation?
Merci beaucoup, madame, de l'opportunité que vous m'offrez pour donner mon point de vue au sujet de l'incident qu'on a eu dans la ville de Lubumbashi. Et c'est une même fois que la ville de Lubumbashi connaît ce genre de phénomène. Je sais que toutes les fois qu'il y a des incursions, si les incursions s'accompagnent de pertes en vie humaine et c'est une situation déplorable, je m'excuse. Je présente à ce fait mes condoléances à toutes les familles qui ont été frappées d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, par ces faits. Je pense particulièrement à nos policiers qui ont perdu la vie et à leur famille. Comment expliquer en fait cette dernière incursion? Je pense qu'il y a plusieurs choses qui ont été dites, plusieurs choses qui vont être dites dans les jours à venir sur cette question-là. Mais je pense que je vais situer mon analyse à deux niveaux. En fait, le premier niveau est celui qui m'amène en fait d'aller au-delà du discours des personnes qui sont directement concernées par cette situation, notamment Bakata Katanga, et questionner un peu l'objet de leur démarche. Je pense que sur le plan purement criminologique, il est démontré que l'injustice sociale qui peut être réel ou le simple sentiment d'injustice peut expliquer les passages à l'acte criminel. C'est parfois très compliqué de constater que des personnes qui n'ont pas suffisamment d'armes, qui n'ont pas suffisamment de ressources en termes d'armes, puissent affronter nos militaires et qui puissent se présenter, se retrouver au centre de la ville de Lubumbashi. Ça démontre quelque part de leur détermination si je dois analyser les choses sous cet angle-là. Sur le plan purement criminologique, il est également démontré que les gens passent parfois à l'acte lorsque leur interprétation du respect de la loi est défavorable. S'ils vivent dans la misère, s'ils sentent qu'ils vivent une sorte d'injustice, ils peuvent très facilement passer à l'acte et le processus de radicalisation est présent. Donc, si vous rentrez simplement dans la manière dont les gens vivent dans la périphérie, à l'intérieur de la ville, à l'intérieur du pays, vous allez très rapidement vous rendre compte que parfois leur revendication, c'est vrai que ça prend une dimension sécessionniste, mais c'est peut-être une manière pour eux d'exprimer des revendications d'une toute autre nature qui sont dues à peut-être une répartition non équitable des richesses du pays. Donc, cette manière de percevoir les choses, cette perception d'injustice peut amener les gens à accomplir ces genres d'actes qui sont des actes criminels. À la question de savoir comment ils se sont retrouvés au centre-ville de Lubumbashi, je suis tout à fait d'accord avec les ministres de l'Intérieur qui estiment qu'ils ont vécu dans la ville, et puis à cela il faut ajouter le fait que nous sommes, les milieux ruraux ont connu des actions qui sont dues à ces mêmes mises, il y a des déplacements de population. Donc alors, lorsque les populations se déplacent, on constate effectivement qu'ils viennent dans des lieux où les conditions des vies sont favorables, c'est ici à Lubumbashi. Donc il y avait ces personnes qui sont parties de là, qui sont les frères et sœurs des ceux, la totalité aujourd'hui des miliciens, qui se retrouvent ici à Lubumbashi. Donc, être surpris de les rencontrer au centre-ville sans que les services de sécurité ne puissent réagir, je ne pense pas que ce soit étonnant, cette histoire-là. Mais je pense que c'est tout à fait normal, ils bénéficient parfois des complicités des frères et sœurs, hormis le fait que certains sont ici. Je prendrai également un autre aspect, qui est celui de l'accoutrement. À un moment donné, on a... Au tout début, on avait l'habitude de les identifier à partir de leurs accoutrements. Mais maintenant, c'est devenu difficile. Les images que moi j'ai vues récemment, c'est des images qui ne nous permettent pas d'établir la distinction entre un véritable maï-maï et un bouchois qui travaille à telle ou telle entreprise. Il n'y a pas vraiment de différence. Donc je pense pour ma part que le fait que ce phénomène change de forme et il faut très rapidement intégrer cela dans le mécanisme de réaction. Donc le premier niveau, c'est d'un sentiment ou d'une forme d'injustice qui est due peut-être à une mauvaise redistribution des richesses au niveau national et qui fait que certaines personnes se trouvant dans certains points de la vie se sentent marginalisées et par voie de conséquence, ils passent très facilement à l'acte. Le deuxième niveau de cette analyse, je peux la situer au niveau de la réaction sociale, et à ces niveaux-là, je parlerai particulièrement de la prison de la Casapa et faire peut-être le lien entre ce qui s'est passé à la prison de la Casapa et ce qui a eu au centre-ville.
Professeur Gabin Badi, puisqu'on ne connaît pas réellement les revendications de ces Bakata Katanga, pourquoi vous pensez directement à la mauvaise redistribution des richesses?
Madame, de circuler à l'intérieur du pays, vous verrez dans quelle misère certaines personnes, certains de nos compatriotes croupissent. À pas suffisamment d'infrastructures, il suffit de circuler dans ces environnements-là, vous constaterez. Donc, s'il y en a qui ont la possibilité de venir ici en ville et de constater qu'il y en a qui vivent mieux et que ces inégalités se creusent davantage, madame, les gens ne peuvent que se lever. Et ces discours-là, ces sécessionnistes, il faudra à un certain moment aller au-delà de ces discours et les considérer peut-être comme une rhétorique de légitimation d'une revendication sociale d'une autre nature. Mais voilà, c'est le discours de ces sécessionnistes qui devient plus important, qui est sur le plan symbolique, qui frappe un peu fort et qui est mobilisé par ces acteurs-là pour agir. Mais le sous-bassement, c'est peut-être l'injustice sociale qui peut être là, ou la mauvaise redistribution des richesses qui peut être à l'origine de cette situation-là.
Pour revendiquer ses droits ou pour manifester son mécontentement, est-ce qu'on a besoin de prendre les armes? Est-ce qu'on a besoin de s'attaquer aux forces de l'ordre? Y a-t-il pas un autre moyen que l'on peut utiliser pour se faire entendre?
Oui, bien sûr, je ne légitime pas, je ne justifie pas. Je tente de comprendre la situation dans laquelle se trouve. En fait, on ne peut en aucun cas trouver une solution durable si on ne comprend pas. Ce sont des acteurs, ils ont leur point de vue, il faut à un certain moment aller vers eux et prendre en considération leur point de vue. Il faudrait les considérer pas comme des spectateurs de leur solution, il faudra dans une certaine mesure, les considérer comme étant des acteurs, il ne faudrait pas les considérer comme des idiots. C'est vrai qu'il y a des revendications qui vont par le passage, donc par l'usage des armes, le pouvoir est là, le droit est là, le droit devra réagir lorsqu'il y a ce passage à l'acte. Mais je pense pour ma part qu'il existe d'autres mécanismes. Le tout répressif n'a toujours pas réussi. Ne réussit pas partout, ne marche pas à tous les coups. Donc, à côté de la répression, il y a lieu d'envisager d'autres mécanismes qui existent d'ailleurs et qui peuvent permettre de sortir de cette situation. C'est déplorable en termes de pertes de vies humaines. Presque à chaque incursion, c'est 10, 15, 20, 30 personnes. C'est des familles, c'est des enfants, c'est des femmes qui deviennent des veuves, c'est des enfants qui deviennent des orphelins. C'est de l'argent qu'on perd, les munitions qui ont été utilisées. C'est de l'argent qu'on perd. On a besoin de gérer rationnellement tout ce qu'on a comme ressources. S'il y a moyen de ne pas aller jusqu'à une guerre, c'est très important. On peut saisir cette opportunité. J'aimerais revenir sur le lien que je fais avec les incidents à la prison de la Casapa. Il ne faut pas oublier que, sauf erreur de ma part, Si parmi les miliciens qui ont été arrêtés il y a quelques années, il y en a qui se trouvent en prison, n'oubliez pas quand les gens vont leur rendre visite en prison. Mais ils le voient, ils parlent, parfois c'est leurs collègues, ils ne se présentent pas comme étant des miliciens, ils vont rendre visite à leurs frères qui se trouvent en prison. Mais s'ils voient les conditions dans lesquelles leurs frères passent le temps de leur incarcération, ça résonne tout davantage. Donc, il n'y a pas à s'étonner. On ne pense pas qu'on puisse s'étonner. Et ce type de révolte nourrit davantage ces sentiments d'injustice. Et les gens passent très facilement à l'acte et ils justifient leurs actions par n'importe quel autre discours, notamment celui des Bakata Katanga.
Maître Thibonté Mbouya, me signale que vous êtes en ligne. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes...
Madame, bonsoir à tous les auditeurs des Radio Okapi.
Merci, vous êtes directeur de l'ONG Justicias Belle, une organisation de défense des droits de l'homme basée à Lubumbashi. Encore une nouvelle incursion de Bakata Katanga. Comment vous expliquez cela, Maître Timothée Mbouya?
Bon, je salue tous mes co-débatteurs ainsi que tous nos auditeurs, et j'ai saisi aussi l'occasion pour présenter mes condoléances à toutes les familles qui ont été éprouvées. En fait, comment on explique ce qui s'est passé, cette énième incursion dans la ville de Lubumbashi? Il faut d'abord dire que nos autorités n'ont pas bien géré, si vous voulez, la question de Mai Mai Bakata Katanga depuis plusieurs années déjà. Parce que vous savez qu'après l'évasion de Gédéon Kubomutanga, disons, après sa toute dernière disparition de la ville, Gédéon il vivait à Lubumbashi. Il y a beaucoup de ces éléments qui étaient à la périphérie de la ville et qui entraient assez facilement dans la ville sans être contrôlés. Mais il y a également le fait que plusieurs personnes qui ont été arrêtées à la suite des événements du 28 mars 2020 ont été relâchées malheureusement, et donc on n'a pas eu le temps de connaître finalement toute la vérité autour de l'organisation de ces mouvements. Et on vivait avec des gens dans la ville, et c'est tout à fait normal que du jour au lendemain, ils surprennent tout le monde et qu'ils fassent monter leur drapeau ou qu'ils réclament l'indépendance de la province de Katanga. Donc, nous comprenons que c'est des gens avec qui nous vivons chaque jour, et nos forces de sécurité ont brillé par leur incapacité à sécurité, parce que aucun service n'a été en mesure de contrôler leur mouvement, de contrôler la façon dont ils se réunissaient, ou comment ils s'organisaient, comment ils planifiaient, tout ça. Nous avons affaire à des forces de sécurité réactives qui n'anticipent pas et qui ne prévoient pas ou n'envisagent pas, bien les choses. Mais il faut également dire qu'en 2017, il y a eu une loi d'amnistie qui a envoyé tous les miliciens de Gédéon, plus de 100 d'ailleurs, à la vie civile, et on n'a pas pris de mesures pour faire le suivi, pour suivre leur réintégration sociale. Et comme mes prédécesseurs l'ont dit, des gens qui se retrouvent sans aucune activité, qui ne savent pas comment nouer les deux bouts du mois, et ils n'ont qu'une seule activité d'ailleurs qu'ils connaissent mieux, c'est celle de manier les armes. Et voilà ce qui nous est arrivé. Donc je crois que la responsabilité doit être partagée, notamment entre les responsables des services de sécurité, parce que pour votre information aussi, il y a des dysfonctionnements au niveau de la police. Nous savons que ça ne fonctionne pas bien. Il y a les commandants des opérations et même celui des renseignements qui ne fonctionnent pas plus. Et donc, cela explique que nous puissions encore ravir l'attaque sans que personne ne soit au courant.
Je ne sais pas si vous avez suivi le ministre provincial de l'Intérieur qui est avec nous dans cette émission. Il a reconnu qu'il y avait une menace qui pesait sur la ville de Lubumbashi. Le gouvernement provincial avait des échos selon lesquels les Bakata Katanga menaçaient d'attaquer la ville de Lubumbashi. Mais malheureusement, la méthode utilisée par ces derniers, c'est-à-dire les Bakata Katanga, ont échappé un peu à la vigilance des autorités provinciales. Parce que ces gens-là, ils étaient confondus à la population de Lubumbashi.
C'est justement cela. Donc, par rapport aux méthodes traditionnelles, ils ne sont pas venus d'un lieu X où ils se trouvaient. J'ai expliqué tantôt que nous avons, en 2017, lorsque Gédéon, lorsqu'on a amnistié les gens de Gédéon ou le mouvement insurrectionnel, c'est plus de 100 personnes qui ont été renvoyés à la vie civile. Ils étaient avec nous pratiquement à la cité parce que il n'y a pas de mesures qui avaient été prises, notamment pour les ramener dans leur milieu de provenance habituelle ou également pour les réinsérer dans la vie sociale. Donc toutes ces raisons-là font justement que cette insurrection soit plus ou moins une surprise. Ça explique quand même pourquoi il y a cette surprise dès que les gens n'étaient pas suffisamment informés avant. Mais cela ne justifie pas l'incompétence de nos services de sécurité, absolument.
Maître Timothée Bouya, est-ce qu'on connaît les revendications de ces Bakata Katanga?
Bon, il faut dire que le mouvement Mai Mai dans la province du Katanga n'a pas commencé avec Gédéon ou avec le mouvement Bakata Katanga. Il faut dire historiquement que on a connu les Korak. Les Korak, c'est le congrès du peuple. Du peuple katanga, en fait, le congrès pour l'indépendance du Katanga, et ils ont commencé à revendiquer l'indépendance du Katanga. Avant, Gédéon était dans les FAP, ce qu'on appelait les forces d'autodéfense populaire, et ils avaient pour mission d'empêcher la progression des troupes du RCD, ce qu'ils avaient d'ailleurs fait. Et maintenant, arrivé, je pense, vers les années 2008 ou 2009, si je ne m'abuse, ou 2011, après l'évasion de Gédéon, c'est en ce moment-là que l'on a appris qu'ils ont créé un mouvement qui visait l'autodétermination de la province du Katanga, donc l'indépendance de la province du Katanga. Nous avions eu à échanger avec certains d'entre eux. Bon, en fait, c'est ça qu'ils réclament. Donc, voilà, ils ne réclament pas l'amélioration des conditions de vie, peut-être, je ne sais pas, mais sinon, par notre canal, par les gens que nous avons rencontrés, ils réclamaient l'indépendance du Katanga. Gédéon lui-même a eu à le dire à plusieurs reprises, mais à un moment donné, vous avez entendu qu'il a fait. Il a fait faire une déclaration à travers sa femme. Il disait qu'il était fatigué, il était instrumentalisé, et lui voulait rentrer à la vie civile, à la vie normale. Gédéon, s'il était rentré, et il s'était rendu aux forces de sécurité, c'était justement pour obtenir qu'on le pardonne pour tous les crimes qu'il avait commis et qu'on l'aide à se réinsérer dans la vie sociale. Donc voilà, il faut dire que ces choses-là ont beaucoup changé et maintenant, apparemment, on a affaire à un nouveau type d'homme, à un nouveau type d'opérateur.
Fulbert Kunda, les auditeurs sont nombreux à réagir. Au terme de ce soir, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kalemi, dans la province du Tanganyika.
Jacques Azaria Hassani, depuis Kalemi, au Tanganyika. Cette nouvelle incursion témoigne une complicité des services de sécurité au Katangé avec ce mouvement criminel de Bakata Katanga, car il est inconcevable, voire inadmissible qu'une milice puisse accéder le cœur de la ville à l'insu des services de sécurité. En tout cas, les gouverneurs et les responsables des services de sécurité doivent répondre et donner des explications claires et nettes quant à ce. À défaut de le faire, ils doivent jeter l'éponge.
Monsieur Kunda.
Voilà. Et je trouve cette affirmation massive, comme on dit, quand il met ça sur le dos des responsables de services de sécurité et du gouverneur de province. Il est un principe scientifique qui dit que toute action est mue par l'intérêt. Qu'auraient les autorités à gagner dans cette opération en la laissant aller comme ça ou en affichant une certaine complicité avec ces forces négatives-là? Il gagnerait quoi? Là, je retourne cette question à celui qui vient de me poser le problème.
Malheureusement, l'auditeur est parti, monsieur le ministre, il ne pourra pas vous répondre. Mais quelles sont les solutions que vous proposez pour mettre fin au phénomène Bakata Katanga?
À l'instar de ce que la commission gouvernementale avait proposé, je suis d'avis qu'un dialogue soit instauré avec les différentes forces dites Mai Mai pour écouter leurs revendications et essayer d'y trouver des solutions.
Mais il y a eu déjà un dialogue.
De manière générale, je dirais ça. D'autant plus que le phénomène Mai Mai, ce n'est pas une spécificité de la province du Katanga. Le phénomène Mai Mai s'est développé plus à l'est et s'est étendu presque à l'ensemble de la République. Donc je pense qu'il faut instaurer un dialogue avec toutes ces forces-là. Parce que, comme le disait, je crois, le professeur de criminologie, c'est peut-être une manière pour eux de pouvoir faire passer un message qu'ils ont. Mais ils utilisent peut-être des méthodes qui n'ont pas l'unanimité dans l'opinion.
Alors, vous proposez le dialogue, il y a déjà eu un dialogue. Monsieur le ministre, vous avez suivi Timothée Mbouya. Il y a eu un dialogue, il y a eu des recommandations, il y a eu un rapport, mais pourquoi les recommandations de ce dialogue qu'il y a eu entre le gouvernement et les Bakata Katanga n'ont pas été appliquées jusqu'à présent? Est-ce que ce n'est pas le fait de ne pas mettre en application ces recommandations qui poussent finalement ces Bakata Katanga à reprendre les armes et attaquer la ville de Lubumbashi? Qu'est-ce qui bloque?
Oui, mais quand vous me posez une question de ces gens-là, alors ça va au-delà des compétences du gouvernement provincial que je représente ici. Et je crois que cette question-là, il faut la poser plutôt à la grande commission qui est venue de Kinshasa et qui s'était penchée sur cette question et qui avait prôné le dialogue.
Mais vous êtes membre du gouvernement provincial du Haut-Katanga, vous êtes censé être au courant.
Justement, je parle
de toutes les négociations qui se font.
Quand il s'agit de questions liées à la défense nationale, ce sont des questions de souveraineté, ce sont des questions sur lesquelles le gouvernement provincial n'a pas beaucoup d'emprise. Sur ces questions-là, je crois qu'il faut se remettre plus au gouvernement de la République qu'au gouvernement provincial.
Professeur Gabin, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Mikalaï, voilà, au Kassai central.
Jean-Pierre Moutandi Paswa, à Mikalaï, au Kassai central. Concernant la situation de Bakata Katanga à Lubumbashi, cette affaire vraiment est vraiment politicienne, à mon humble avis, vu que la milice entre, se déambule en plein centre-ville sans être inquiétée au vu des autorités tant politico-administratives. On doit interpeller les services de l'ANR pour que ce service puisse répondre. J'interpelle au gouvernement central que les enquêtes puissent être poursuivies pour que les auteurs, tant sur le plan provincial qui est national, qui sont derrière cette milice, puissent répondre si le chef de cette milice est tout.
Professeur Bati Kabuya, la proposition de Jean-Pierre depuis Mikalaï pour mettre fin à ce phénomène, elle demande à ce que toutes ces personnes qui instrumentalisent ou qui sont derrière ces Bakata Katanga soient arrêtées et entendues.
Je ne partage pas cette manière de voir les choses et je pense que c'est des bruits de plus en plus récurrents. Lorsqu'il y a un problème dans la société qui nécessite des réponses, mais on passe plus de temps à établir responsabilité, à imputer telle à telle autre personne, et on voit la politique partout, on voit l'instrumentalisation partout, et c'est très dangereux. La preuve, c'est que après ces genres d'actions, on se limite uniquement à la répression. C'est quoi? En établissant la responsabilité, on va réprimer, on va sanctionner, mais le problème reste entier. Je pense que ça, c'est de la même manière qu'on dit que ce mouvement est instrumentalisé, même en affirmant que c'est des considérations plus politiciennes, c'est aussi une autre forme d'instrumentalisation d'une situation donnée. Je pense que c'est pas là qu'on doit aller. Si on veut avancer, on doit certainement chercher les responsabilités, établir les responsabilités. Ça, c'est le problème des instances judiciaires et qu'on sort. Mais pour ce qui est de la démarche plus constructive qui est dans les comptes de gérer cette situation, je pense qu'il faut davantage comprendre. Je suis d'avis avec le ministre de l'Intérieur qui estime qu'il faut un dialogue, alors cette fois-là, il faudrait un dialogue sérieux et il faudrait également qu'il y ait des suivis par rapport à toutes les résolutions. Depuis 2014, je crois, si je ne m'abuse, il y avait également une autre commission qui était arrivée ici, dans laquelle, je crois, il y a l'honorable Loubaya qui a travaillé dedans. Où est-ce qu'on a mis avec ces résolutions? Nous avons la capacité de réfléchir, de produire, de proposer, de faire des propositions en termes de résolutions, mais comment leur mise en application pose énormément de problèmes. Donc il faut revenir sur ça et réfléchir à froid. Ce n'est pas une question on ne peut pas résoudre une question aussi importante comme celle-ci avec autant de patients. Non, il faut résoudre ça à froid. Et je pense que le dialogue, c'est un bon, il faut écouter. Ce sont nos frères, ce sont des Congolais, ils ont leurs revendications, il faut les écouter. S'ils sont prêts à ce dialogue-là, il faut les écouter et aller jusqu'au bout de la logique.
Maître Timothée Mbouya, il y a aussi une réaction pour vous qui nous vient de Lubumbashi.
Je suis David Tibankundi depuis la ville de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Je suis moi-même témoin oculaire et auriculaire de cette incursion de soi-disant Maïmaï au centre-ville de la ville de Lubumbashi où j'avais passé nuit. Cette incursion impliquait plus ou moins 300 assaillants bien armés avec toutes sortes d'armes. Alors, vu la grandeur et la démographie de la ville de Lubumbashi, la question de l'implication des autorités provinciales est une option à écarter. Essayons d'imaginer le contrôle d'un individu à individu. Donc, cette politique est pratiquement impossible vu le nombre de personnes qui entrent par minute, voire même par seconde dans la ville de Lubumbashi. Donc, dans tout ceci, il s'agit simplement des gens qui sont instrumentalisés et animés de mauvaises volontés et animés le plus souvent des esprits tribaux et qui cherchent à semer des désordres dans un pays qui se bat encore pour la stabilité du pays. Alors, comment ces gens ici sont parvenus même à arriver au centre-ville? Donc, c'est nous-mêmes la pollution et la population qui sommes à la base de tout ça. Donc, le mieux à faire, c'est que la population puisse essayer de collaborer afin d'aider le gouvernement pour que le gouvernement puisse essayer de retrouver le plus vite que possible ces assaillants afin de les mettre hors d'état de nuire.
Je vais ajouter Maître Timothée Mbouya cette autre réaction de Christian Banindou depuis Bukavu au sud Kivu. L'incursion des Mai Mai Bakata Katanga est le fruit de la collaboration de la population katangaise avec ces derniers. Ceci par le fait que la population croit être protégée par ces Mai Mai alors que ces derniers opèrent pour des fins politiques. Et comme exemple typique, chaque fois que ces Mai Mai entrent dans la ville, ce sont des prisonniers qui s'évadent et c'est en ce moment-là que tous les hors-la-loi reviennent commettre leur forfait sans peur d'être trahis par la population auprès des forces de l'ordre. Nous, population, nous devons savoir que collaborer avec un système injuste, c'est devenir plus pécheur que l'oppresseur. Maître Timothée.
Merci beaucoup, madame. Et merci aussi à notre auditeur pour la question. Je pense que comment on fait ou qu'est-ce qu'on fait pour mettre un terme à cette spirale de violences. Pour ma part, je pense que le gouvernement doit évidemment être beaucoup sérieux autour de ce qui se passe. On a parlé ici, on a dit qu'il y a une commission gouvernementale qui est descendue à Lubumbashi au mois de mars, disons après les événements de mars. Mais cette commission a, comme toutes les autres commissions, produit un rapport qui est resté dans les tiroirs et pour lequel on ne connaît même pas les recommandations, et on ne sait pas à quel niveau les recommandations sont exécutées. Je pense que ça, c'est une faille, c'est une faiblesse. Il sera malheureusement que des choses où la violence se commette et se commette encore. Mais maintenant, je pense qu'on ne peut pas dialoguer avec des gens qu'on ne connaît pas. Pour dialoguer, il faut qu'on connaisse les gens. C'est pour cela que moi, j'ai lancé un appel à ceux qui, entre guillemets, tireraient les ficelles en envoyant ces jeunes gens innocents mourir dans la cité ou dans la ville. Je souhaite que ces tireurs de ficelles ou ces auteurs puissent se manifester, de sorte que on puisse savoir qui est l'interlocuteur valable avec lequel le gouvernement pourrait échanger pour éventuellement trouver des solutions aux revendications qui sont légales, aux revendications qui sont légitimes et qui sont légales. Donc je crois que le dialogue, c'est l'âme de toute société. Sans dialogue, on ne sait pas aller de l'avant, mais il faudrait qu'on sache avec qui dialoguer, parce que le groupe de gens tels qu'on les a vus ces samedis, bon, on dirait des gens qui n'ont pas des chefs ou des gens qui sont comme ça, qui ne répondent presque de personne. Mais maintenant, il faut que les gens prennent courage, qu'ils prennent le courage de se dénoncer et de dire que c'est eux qui sont autour de ça pour que le gouvernement puisse éventuellement aussi discuter avec eux. La population doit collaborer avec les services, mais il faut dire par exemple qu'aujourd'hui l'insécurité qui est dans la ville de Lubumbashi pourrait aussi être consécutive à une présence ou à un nombre assez limité de policiers et des éléments des FARDC qui n'ont malheureusement que des armes létales pour intervenir chaque fois qu'il y a des problèmes dans la société. Donc le gouvernement doit mettre les moyens, doit doter nos services de sécurité de moyens non létales pour éviter qu'il y ait toujours de mort chaque fois qu'on doit intervenir pour restaurer la paix, restaurer la sécurité. Mais le gouvernement doit également penser à étoffer les rangs des bastions. Je vous ai dit que nous avons un effectif de la police et de l'armée très limité. Beaucoup de militaires ont été envoyés dans la surveillance et la garde des entreprises minières. Et on a dégarni pratiquement la ville.
Donc moi, je crois que c'est cela.
Merci, Maître Timothée Mbouy. On va considérer cela comme votre conclusion. Fulbert Kunda, ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Dialogue, oui, mais avec quel interlocuteur? C'est la question de Maître Timothée Mbouy. Comment vous y répondez en 30 secondes? Ça sera aussi votre conclusion.
Bon, le dialogue, c'est avec ceux qui se disent Maïmaï. C'est des citoyens congolais et nous n'avons pas le droit, nous, comme gouvernement, à rester indifférents à leurs revendications. Le débat peut se situer peut-être au niveau de leur modus operandi, mais nous devons être à l'écoute de la population que nous sommes appelés à gérer, de manière à ce que nous puissions apporter des solutions à leurs aspirations les plus profondes et les plus légitimes. Voilà ce que je peux dire à ce sujet-là.
Merci, Hulbert Kunda. Milundu, on va prendre quelques réactions des auditeurs. Junior Kalwa, depuis Lubumbashi, c'est inconcevable que cette milice puisse sortir du golfe Fossin pour arriver jusqu'à la poste et un autre groupe de Kiamatété jusqu'à la station provinciale de la RTNC sans être inquiété. Ça saute aux yeux qu'il y a une complicité avec les agents de sécurité. Il y a vraiment une main noire dans l'insécurité qui se vit à Lubumbashi actuellement. Tant que cette main noire n'est pas déniché et déféré devant la justice, cette situation va perdurer. Charles Kivata, depuis Lubumbashi aussi, il faut une grande réunion sincère de tous les notables du Grand Katanga, ainsi que des Gédéon Kyungu lui-même ou sa délégation, pour écouter ses préoccupations et revendications. Chouke Mouigiroua, à partir de Kolosi, si les Maïmaï Bakata Katanga ne s'inquiètent de rien et se permettent de troubler l'ordre public à tout moment, c'est tout simplement parce qu'ils sont soutenus et protégés par certains notables du Grand Katanga. Patkol Bomba, je me demande pourquoi on accuse toujours les forces de l'ordre. Quand ces derniers réagissent, c'est la même population qui dira que nos forces de l'ordre ne sont pas professionnelles. Ils ont tiré sur les paisibles citoyens qui n'avaient que des machettes en main. Enfin, Cyprien Mingano, cette situation semble complexe car nous qui sommes à Lubumbashi avons du mal à comprendre comment ces gens peuvent quitter les villages où ils habitent et venir au centre-ville sans être remarqués par les agents de l'ordre. Ça me fait penser que ce sont eux qui sont à la base de l'insécurité grandissante à Lubumbashi. Pour venir à bout de cette histoire, il faut connaître leurs revendications. Professeur Gabin Badi Kabuya, votre conclusion.
Je vais m'inspirer du général chinois Sun Tzu qui a écrit L'Art de la Guerre et qui dit que l'art de la guerre est l'art de gagner une guerre avant qu'elle ne commence. Le meilleur savoir-faire n'est pas de gagner 100 victoires dans 100 batailles, mais plutôt de vaincre l'ennemi sans combattre. Je pense que le dialogue, pour l'instant, c'est l'un des outils qui n'exclut pas la poursuite de ceux qui se sont livrés à des exactions, mais c'est quand même le dialogue, il n'est pas interdit, nous ne serons pas les premiers à dialoguer avec nos confrères qui s'écartent de la conduite normale. Donc je pense qu'on peut porter d'une certaine manière.
Merci, professeur Badi Tiabouya, Dialogue entre Congolais. C'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné, qui m'a aidé à préparer cette émission. Guy Maté de la Madimba sous la supervision d'Axel Gonto. Merci à Patrick Kiasongwa qui était à la prise de son. Présentation et coordination, Kéline Couté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.